France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction et vous, Lou Bourdi, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Le chantier de l'A69 va pouvoir se poursuivre. La justice valide les autorisations. La décision est tombée ce matin. Explication dans ce journal. De plus en plus de personnes à la rue, dont des milliers d'enfants. Nous vivons aujourd'hui avec le taux de précarité le plus élevé depuis 30 ans. Au Yémen, l'état d'urgence décrété face à l'avancée des séparatistes. Et en Iran, vous le verrez, les boutiques des commerçants, toujours le rideau baissé. Deuxième jour de contestation contre la vie chère. Le chantier de l'A69 va donc pouvoir se poursuivre. La décision très attendue de la Cour administrative d'appel de Toulouse est tombée et elle valide l'autorisation environnementale du chantier de cette autoroute entre Toulouse et Castres. Un chantier, vous le savez, devenu au fil des ans un symbole de la défense de l'environnement. Bonjour Florence Turme.
Bonjour.
Alors sur quels arguments la Cour d'appel s'est appuyée pour justement valider la poursuite du chantier ?
Dans son arrêt, la Cour administrative d'appel de Toulouse prend le contre-pied du tribunal administratif qui, en février dernier, avait annulé les autorisations préfectorales en évoquant des bénéfices très limités pour le territoire et ses habitants, l'impossibilité également de déroger aux règles de protection de l'environnement et des espèces protégées. La Cour, elle, a suivi les arguments des concessionnaires, des représentants de l'État et des collectivités locales favorables au projet. Elle conclut à une raison impérative d'intérêt public majeur. C'est le point clé d'un point de vue juridique. Les juges ont estimé que les trois conditions permettant d'accorder les autorisations étaient réunies. D'abord, parce que le projet permettra de relier dans de meilleures conditions le bassin de Castres-Mazamé à la métropole de Toulouse. Ensuite, parce qu'il n'existe pas, selon eux, de solution alternative satisfaisante. Enfin, que le maintien des espèces protégées n'était pas menacé en raison des mesures compensatoires prévues. Un arrêt commenté ce matin par le ministre des Transports, ce qui donne bien la mesure des enjeux et de la dimension politique de ce dossier. Dans un communiqué, Philippe Tabarot salue les conséquences d'une décision majeure qui permet d'envisager la livraison de cette infrastructure à l'horizon d'octobre 2026. Les opposants au projet ont d'ores et déjà annoncé se pourvoir devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi n'est pas suspensif. Il ne devrait donc pas impacter la poursuite des travaux. Reste cette autre procédure engagée au pénal contre des emprises non autorisées du chantier. Près de 46 hectares, selon les associations. Le procureur de Toulouse a lui aussi conclu à un trouble grave à l'ordre public environnemental et requis la suspension des travaux sur les zones concernées. Dans ce dossier, la justice rendra sa décision le 12 janvier.
Les explications de Florence Turme.
La précarité augmente et s'aggrave encore en France.
Un homme de 72 ans est mort dans la rue, c'était il y a deux jours à Paris, et ce n'est pas un cas isolé. L'an dernier, plus de 900 personnes sans domicile fixe sont mortes. Un chiffre qui s'explique par le nombre impressionnant de personnes qui cherchent chaque jour un logement d'urgence. La Fondation pour le logement des défavorisés, anciennement Abbé Pierre, publie d'ailleurs aujourd'hui un sondage. Il révèle que 7 à 8 000 personnes appellent quotidiennement le 115 pour obtenir un hébergement pour la nuit, dont 2 000 à 3 000 enfants. Bonjour Wafia Kenich.
Bonjour Lou.
Des chiffres qui ne cessent d'augmenter et pour cause, on connaît aujourd'hui le taux de pauvreté le plus élevé depuis 30 ans.
Oui, Lou, avec plus de 15% de population concernée par cette précarité, soit plus de 10 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Avec ce sondage, on découvre que non seulement les plus pauvres s'enfoncent, mais ceux qui étaient sur le fil du rasoir ne s'en sortent plus, comme l'explique Christophe Robert, délégué général de la Fondation pour le logement.
24% des personnes qui ont été interrogées ont eu recours à l'aide financière de proches, parce qu'ils ne s'en sortaient pas, parce qu'ils avaient des difficultés, et que ce chiffre a doublé depuis 2021. Et puis on voit aussi que 14% de la population a eu recours à l'aide alimentaire et là aussi, ça a doublé depuis 2021.
L'inflation, des situations économiques difficiles font plonger certains dans la précarité, mais c'est aussi parce que la puissance publique ne remplit plus tout à fait son rôle.
Il y a un petit discours latent dans notre pays qui consisterait à dire que les personnes finalement seraient ou des profiteurs ou ne se bougeraient pas assez. Ce discours latent, il a tendance finalement réduire quelque peu la voilure sur la protection sociale, sur les aides sociales. Et c'est là où il y a un discours qu'il faut absolument inverser en disant « mais non, il faut vraiment faire preuve de solidarité pour que quand on est face à un coup dur, une perte d'emploi, un problème de santé, une rupture conjugale, on soit là justement pour tendre la main à ceux qui sont en difficulté plutôt que de les montrer du doigt ».
La Fondation appelle donc à une revalorisation des APL, du RSA, du chèque énergie, car dans ce sondage, la précarité énergétique augmente nettement dans ces foyers les plus précaires, souvent logés dans des passoires énergétiques.
Eh oui, des passoires énergétiques, dans lesquelles les habitants subissent de plus en plus de chaleurs extrêmes, des événements climatiques qui s'aggravent et qui sont de moins en moins naturels. Voici ce que démontre un rapport annuel publié par le World Weather Attribution, un réseau de chercheurs qui a identifié 157 événements climatiques extrêmes cette année. Bonjour Véronique Rebérotte.
Bonjour.
Sur une trentaine d'événements qu'ils ont étudiés plus précisément, la majorité d'entre eux n'auraient pas été aussi extrêmes sans changement climatique.
Alors durant l'année 2025, dont on saura dans quelques heures si elle sera la deuxième ou la troisième année la plus chaude jamais mesurée, les événements météo extrêmes se sont enchaînés dans le monde. Alors je reprends votre chiffre, 157 recensés au total, disent aussi les scientifiques, donc du WWA. Selon des critères bien définis pour être qualifiés d'extrêmes, par exemple des inondations ou des méga-incendies, ces événements doivent avoir eu comme conséquence de provoquer au moins une centaine de morts ou d'avoir affecté au moins 1 million de personnes ou d'avoir encore conduit les autorités du pays à décréter l'état d'urgence. 30 de ces événements extrêmes ont donc été jugés très significatifs par le WWA, dont 22 au final ont été assurément rendus probables ou aggravés par l'augmentation de la température de la planète. Pas de doute sur les incendies de Los Angeles, incontrôlables, inarrêtables, souvenez-vous, en début d'année. 400 morts dans l'État de Californie, le plus riche des États-Unis, résultat de températures élevées, de sécheresses récurrentes et d'assèchement de la végétation sous l'effet de la hausse du mercure. Pas de doute non plus sur les inondations de cet été au Pakistan, 800 victimes et des dizaines de milliers de personnes déplacées à cause de pluies, de moussons et de crues glaciaires exceptionnelles. L'empreinte du dérèglement climatique est aussi pointée dans l'intensité des cyclones et ouragans, comme celui Mélissa qui a dévasté la Jamaïque, Haïti et Cuba le mois dernier. Les pluies qui se sont abattues sur ces pays pourraient avoir été accrues de 9% par l'augmentation des températures, estiment les chercheurs.
Les explications de Véronique Rebérotte. Le climat, justement. À moins de 6 semaines maintenant des Jeux Olympiques d'hiver de Cortina en Italie, et alors que la France se prépare à accueillir ceux de 2030 dans les Alpes. Eh bien, France Culture se pose la question cette semaine. Est-ce que les JO d'hiver sont encore d'actualité ou est-ce que ces sports sur la neige sont tout simplement voués à disparaître? Nous tentons d'y répondre cette semaine avec nos invités. Aujourd'hui, Guillaume Desmures, il est journaliste et écrivain, spécialiste de la montagne et auteur d'une enquête sur les JO de 2030 aux éditions Paulsen. Il répond à Azaïs Perronan.
Guillaume Desmures, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit une enquête intitulée « Le crépuscule des Jeux » où vous montrez que le modèle olympique se heurte aux limites environnementales notamment. Les organisateurs des JO 2030 promettent des Jeux sobres et durables. Selon vous, où se situe le principal décalage entre ce discours et la réalité du projet ?
Ben, il suffit de regarder les éditions précédentes des Jeux Olympiques, été comme hiver, les mêmes promesses sont toujours faites au moment de la candidature. Ce seront les JO les plus sobres, les plus durables. Ça a été le cas pour les JO de Paris, c'était le cas pour les JO d'Athènes, de Rio, etc., etc. Et même jusqu'en 92, les JO d'Albertville. Donc à chaque fois, les organisateurs nous font les mêmes promesses. Et puis, il se passe à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a des JO qui sont organisés toujours à peu près de la même manière, avec les mêmes résultats. Et on se rend compte qu'en réalité, et si on se fie aux spécialistes, hein, qui, notamment un groupe d'experts qui a créé un indice de durabilité, qu'il a appliqué aux grands événements sportifs internationaux, dont les JO, les Coupes du Monde, ils nous disent que les Jeux Olympiques sont plutôt moyens en termes de durabilité, selon leur indice, et que ça a tendance à se dégrader au fil des éditions.
Alors là, en l'occurrence, qu'est-ce qui pose problème dans l'organisation de ces Jeux 2030 ? En quoi est-ce qu'ils reposent sur un modèle en décalage avec les réalités climatiques ?
En fait, les JO sont vraiment, pour simplifier, la perpétuation du modèle économique qui a été installé dans les années 60 en France, dans les stations de ski. Un modèle économique de tourisme de masse qui repose sur du transport carboné, avec au cœur du modèle, au cœur de la création de valeur, l'immobilier. Et on se rend compte que ces Jeux Olympiques 2030 vont perpétuer ce modèle. Ils vont aussi perpétuer l'imaginaire du ski alpin sur de la neige de culture. Donc on n'est pas du tout dans une vision d'avenir. On ne se projette pas du tout vers l'avenir et vers la direction dans laquelle on devrait regarder, nous, la montagne, et nous, sportifs, et nous, habitants de la montagne. Les JO 2030 sont vraiment un événement sportif du passé qui ne s'est pas encore adapté aux nouvelles règles du jeu du nouveau régime climatique.
Alors, les organisateurs, eux, promettent que ces jeux seront au service de la transition des territoires de montagne. Qu'est-ce qu'on trouve concrètement derrière ces promesses ?
Eh bien, j'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien le savoir parce que pour le moment, ce sont des promesses. Alors ça, ils nous en ont fait beaucoup. Ces JO seront sobres, durables et au service de la transition des territoires de montagne. Alors, première question, c'est qu'est-ce que vous voulez dire par sobre ? Parce que sur le plan budgétaire, c'est plutôt l'inverse depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire par durable ? La dernière fois qu'un groupe d'experts vous a présenté en 2024 une liste de 17 critères de durabilité à respecter, vous les avez balayés d'un revers de main. Et puis, au service de la transition de la montagne, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est quoi la transition de la montagne ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Et surtout, qu'est-ce que vous allez faire dans cette direction ? Aujourd'hui, il n'existe rien dans le projet de candidature, dont je rappelle que le seul document officiel auquel on a accès sur cette candidature, c'est le rapport de la commission future haute du CIO de juin 2024. Voilà. Là-dedans, on ne voit rien qui nous permette d'affirmer que ces JO vont être au service de la transition des territoires de montagne.
De quoi est-ce qu'ils ont besoin les territoires de montagne aujourd'hui ?
Les territoires de montagne font face à des menaces existentielles, notamment liées au nouveau régime climatique et à toutes ses conséquences, et puis à la transition énergétique également, et puis à la question de l'immobilier et du logement. Toutes ces questions-là doivent, dans certains cas très précis, mais devraient être adressées. On devrait travailler à sortir d'un modèle économique créé dans les années 60, en plein 30 glorieuses, centré autour de la voiture et de l'immobilier. On devrait en sortir progressivement pour s'adapter aux nouvelles règles du jeu, et notamment sortir du tout-ski et sortir d'un modèle qui est basé entièrement sur le tourisme.
Mais au fond, est-ce qu'il est possible de faire des jeux au service de la transition environnementale ?
Oui, bien sûr. Et ça, c'est un beau défi qui nous est posé et qui est enthousiasmant et sur lequel on pourrait réfléchir, sur lequel on pourrait travailler. D'ailleurs, de nombreux experts dont j'ai pu lire les travaux pour l'écriture de mon livre proposent des solutions qui sont compatibles ou en partie compatibles avec la transition environnementale. Par exemple, de garder les Jeux Olympiques d'hiver toujours au même endroit. Ça pourrait être une solution. Alors, c'est des solutions un peu radicales qui modifient en profondeur le projet olympique. Mais je pense que les menaces qui pèsent, et on le sent bien, sur notre monde, notre société, notre économie, sont importantes, sont existentielles et demandent des réponses à la hauteur de ça. Pour ça, il faudrait peut-être commencer par écouter les montagnards, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui avec ces JO 2030.
Merci beaucoup, Guillaume Desmures. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain, spécialiste de la montagne.
Et vous répondiez au micro d'Azaïs Perronin.
La SNCF a peut-être du souci à se faire.
Et oui, parce que la compagnie italienne Trenitalia annonce s'allier avec un fonds d'investissement américain. Le but, accélérer son implantation en France. L'accord prévoit un apport financier américain de 300 millions d'euros et de son côté, Trenitalia apporte près d'un milliard d'euros. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Lou Bourdi.
Une nouvelle alliance qui devrait donc, si on comprend bien, permettre de mieux concurrencer la SNCF.
Effectivement, l'opérateur qui est déjà présent sur les lignes Paris, Lyon, Marseille et Milan a besoin de plus de trains pour se développer et accroître ses fréquences, notamment sur l'axe Paris-Lyon, qui est le plus fréquenté et le plus rentable en France, avec des liaisons qui viennent de passer de 9 à 14 par jour pour Trenitalia. Cette manne financière doit également permettre à l'entreprise italienne de construire son propre centre de maintenance pour ne plus dépendre de celui de la SNCF à Paris-Gare de Lyon, mais aussi d'acheter 10 nouvelles rames TGV qui vont lui permettre de s'attaquer à la ligne Paris-Londres à partir de 2029, car pour l'instant, Eurostar, dont une grande partie du capital est détenue par la SNCF, a le monopole sur cette ligne Paris-Londres. Résultat, Fabrice Toledano, le directeur commercial de Trenitalia France, espère bien faire baisser les prix avec cette ligne.
La concurrence aujourd'hui, elle est nécessaire sur cet axe-là parce qu'il y a du potentiel et parce que effectivement il y a une demande aujourd'hui extrêmement forte, et donc il est important qu'on aille justement sur des axes où la concurrence a un intérêt. C'est exactement ce qu'on a vu hein, quand on a ouvert le Paris-Lyon ou le Paris-Marseille. Il y avait une demande client qui était forte, et notre arrivée a quand même permis non seulement d'augmenter l'offre fortement, puisqu'on amène plus de trains, plus de départs, mais aussi de baisser les prix. Et on constate déjà des baisses de prix sur les axes sur lesquels on est présent.
Enfin, avec son nouveau partenaire américain, Certares, spécialiste du voyage qui va investir 300 millions d'euros. Trenitalia va également pouvoir bénéficier de plusieurs de ses agences de voyage, ce qui devrait lui permettre d'accroître sa clientèle affaires, car pour l'instant, les taux de remplissage de Trenitalia en France sont de 65% contre 90%. Pour la SNCF, résultat, Trenitalia perd encore beaucoup d'argent en France.
Les précisions d'Hakim Kasmi. Après l'attaque au couteau dans le métro parisien vendredi dernier, le ministre de l'Intérieur reconnaît ce matin sur France Inter, je cite, qu'il y a eu un dysfonctionnement concernant l'homme soupçonné d'en être l'auteur. Un homme qui avait d'abord été présenté comme un ressortissant malien ayant fait l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Cet homme dispose en réalité d'un passeport français, ce qui n'était pas connu des services, précise Laurent Nouniez.
Au Yémen, la crise politique se durcit.
L'état d'urgence vient d'être décrété par le chef du conseil présidentiel qui annule par la même occasion le pacte de défense avec les Émirats arabes unis. Et pour cause, les séparatistes soutenus par Abu Dhabi gagnent du terrain. Ils ont pris la main ces dernières semaines sur plusieurs portions du pays. Leur objectif, rétablir un état dans le sud du Yémen où une république démocratique et populaire a été indépendante entre 1967 et 1990. Étienne Monin, l'Arabie Saoudite appelle les Émirats Arabes Unis à retirer leurs forces du Yémen dans les 24 heures.
La région est entrée dans une double crise, à la fois militaire et diplomatique. Le Yémen est en train de devenir un terrain d'affrontement entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, alors que les deux puissances régionales étaient alliées il y a 11 ans lorsque les Houthis ont renversé le pouvoir central. La crise militaire d'abord a démarré il y a un mois. Les milices sécessionnistes réunies sous la bannière du Conseil de transition du Sud ont lancé une offensive sur deux régions, dont l'une et frontalière avec l'Arabie Saoudite. Cette opération a brisé un statu quo. Elle menace de redéfinir la carte du pays avec une perte de territoire pour le conseil de direction présidentiel soutenu par les Saoudiens au profit des sécessionnistes armés par les Émirats Arabes Unis. La crise diplomatique, elle, est plus ancienne. Elle est alimentée par la politique proactive des Émirats Arabes Unis dans la région. En plus des forces du sud au Yémen, le pays arme les milices du Soudan qui est également menacé de partition. Dubaï se sont confortés par ses liens avec l'administration Trump. L'Arabie Saoudite, de son côté, estime que cette guerre des proxys est devenue une menace pour sa sécurité nationale.
Étienne Monin pour France Culture. Le président iranien appelle à écouter, je cite, les revendications légitimes des manifestants. Deuxième jour de contestation de commerçants dans la ville de Téhéran, plusieurs boutiques fermées. Un mouvement de contestation qui a commencé dimanche dans le plus grand bazar de la ville, avant de gagner en ampleur. Valérie Crova, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont donc les raisons de cette colère ?
L'inflation galopante, provoquée par une dépréciation de la monnaie iranienne, le rial, par rapport au dollar dont le taux explose. C'est la conséquence des sanctions internationales rétablies par l'ONU fin septembre, après l'échec des négociations sur le programme nucléaire iranien. Le rial a atteint dimanche son plus bas niveau historique et les commerçants disent ne plus pouvoir acheter de nouvelles marchandises et qu'ils risque de perdre beaucoup d'argent. Le fait que le mouvement ait commencé dans le grand bazar de Téhéran est symbolique, c'est le poumon économique de la capitale iranienne et aussi le baromètre du mécontentement qui s'est propagé à plusieurs villes comme Hamedan, Kerman, Shiraz, Avaz, où des jeunes ont scandé des slogans contre le régime des mollahs tels que « les Iraniens préfèrent la mort à l'humiliation ».
Alors Valérie, le président iranien tente de calmer la colère, il a accepté la démission du chef de la banque centrale, il appelle à écouter, on l'a dit, les revendications légitimes des manifestants, mais est-ce que ça va suffire ?
Alors d'après ce que nous disent les Iraniens qui vivent sur place, le ras-le-bol est à son comble. Le pays a dû affronter en 2025 de multiples crises. La guerre de 12 jours lancée par Israël cet été, mais aussi la crise de l'eau. Cette année, l'Iran a connu l'une des pires sécheresses depuis des décennies. Les autorités ont annoncé que demain, les services administratifs, les organismes publics, les centres commerciaux, les écoles, les universités et les établissements d'enseignement supérieur seront fermés. La journée sera chômée dans 11 provinces. Officiellement, c'est pour économiser l'énergie en raison du grand froid qui règne actuellement en Iran, mais on est en droit de se demander si ce n'est pas plutôt de peur que les manifestations ne se propagent.
Les explications de Valérie Crova pour France Culture. Et puis pour terminer ce journal, un mot de météo de votre après-midi. Les maximales aujourd'hui, 7 à Cherbourg, 5 à Tours, 6 à Lille, 16 à Ajaccio. Côté ciel, du soleil sur une large partie de la France, mais encore un peu de gris sur le sud-ouest et puis quelques flocons possibles aussi cet après-midi sur la région Rhône-Alpes. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Alix Forgeot à la technique Guillaume Ficheux.